Elle comme lutte de classe, ou lutte des classes, hein, on dirait. Donc, certainement le maître mot de la théorie marxiste, et comme le dit Étienne Balibar dans l'article qu'il lui consacre dans le dictionnaire, s'il n'en reste qu'un, ce sera celui-là. Or, justement, ce concept de lutte de classe a spectaculairement disparu du langage politique des partis de gauche contemporains, comme si l'expression n'avait plus lieu d'être. Comment entendre alors aujourd'hui lutte de classe, lutte des classes? Quel sens revêt-elle dans la théorie marxiste? Et en quoi est-il toujours un instrument théorique productif?
Oui, lutte de classe, c'est incontestablement ce que j'appelle un concept gouverneur dans le marxisme. Il y en a quelques-uns comme ça. Lutte de classe est de cela. C'est peut-être pas le plus déterminant, mais enfin, c'est un concept tout à fait important. C'est un concept important, mais qui mérite quelques précisions parce que on se méprend souvent sur ce concept. On pense. Enfin, il arrive assez souvent qu'on pense que le concept de lutte de classe, c'est un concept dogmatique, c'est-à-dire c'est une invention de Marx au XIXe siècle pour penser un certain nombre de phénomènes, mais que ce n'est pas un concept généralisable. Alors, il faut dire que les classes sociales, ce n'est pas Marx naturellement qui les a inventées, ni même qui les a nommées, c'était déjà le cas des historiens de la Restauration, et d'un certain nombre d'autres. Par contre, l'idée de classe en lutte, une définition de la société par des classes en lutte, c'est quelque chose qui est nouveau, tout au moins nouveau sous la forme sous laquelle le théorise Marx. Parce que nous devons considérer qu'il y a là derrière une conception de la société qu'on peut discuter évidemment, mais qui est très ancienne. Et Marx le savait. C'est cette idée que les sociétés, les rapports sociaux sont fondés, sont appuyés sur l'antagonisme, sur des formes de violence. C'est ce que Héraclite, qui était considéré par Marx et Engels comme le maître de la dialectique, avait bien défini dans ses fragments lorsqu'il disait Polémos est le maître de toutes choses. Alors Polémos, c'est la guerre, c'est le conflit entre les hommes. À côté de ça, on peut avoir une conception édénique, irénique de la société, ce qui était le cas disons, de Rousseau, encore que ce soit plus nuancé chez lui. Mais ici, il faut penser aussi à quelqu'un comme Hobbes. Hobbes dit, c'est bien connu, l'homme est un loup pour l'homme. Mais le même Hobbes dit aussi, l'homme est un dieu pour l'homme. Ça veut dire que dans la société, il y a des moments qui sont malheureusement fréquents, où l'homme est un loup pour l'homme, mais où il existe aussi des hommes qui ont avec les autres des rapports de tolérance, des rapports d'assistance, des rapports qu'on met sur le dos de la commisération aujourd'hui, mais qui sont en réalité des rapports de solidarité. Toutefois, ça n'empêche pas que la société est fondée sur des conflits d'intérêts. Et c'est bien ça qu'il faut avoir à l'esprit. Une autre précision, c'est que le concept de lutte de classe est un concept qui ne convient qu'à un certain stade de la société. Lorsque Marx et Engels écrivent le manifeste, ils avancent que toute société est fondée sur la lutte de classe, mais quelques années après, Engels rectifie en disant des travaux récents, et en particulier des travaux d'anthropologues britanniques, ont appris qu'il existait des sociétés où cette forme de conflit n'existe pas. Par conséquent, la lutte de classe doit être entendue des modes de production qui ont précédé le mode de production capitaliste proprement dit, étant entendu que c'est celui-ci qui donne à la lutte de classe toute son importance. Il lui donne toute son importance parce que il la fait reposer sur la notion d'exploitation. Ce qui caractérise les rapports capitalistes d'exploitation, les rapports capitalistes en général, c'est l'exploitation, c'est-à-dire d'une classe ou de plusieurs classes par d'autres. Et c'est ce qui explique la lutte de classe. Or, l'exploitation, elle joue dans différentes directions. Il y a une exploitation, par exemple, de la nature par l'homme, incontestablement. Si vous avez vu récemment ce petit film auquel on a fait beaucoup de publicité, qui s'appelait Le Sacre de l'Homme, qui a été rédigé, qui a été inventé par l'anthropologue Yvon Coppens, justement, on voit que dans le Sacre de l'Homme, il y a un épisode où apparaît la notion de propriété. Et cette notion de propriété est associée immédiatement avec la notion de pouvoir. Les deux sont indissociables. Or, dans l'exploitation, ce que nous avons, c'est la propriété. C'est la raison pour laquelle Marx s'est tellement intéressé à Proudhon, parce que Proudhon avait eu cette formule à l'emporte-pièce, qui disait bien les choses, la propriété, c'est le vol. C'est-à-dire, à un moment donné de l'histoire humaine, la propriété se constitue, avec elle le pouvoir, et donc des relations inégalitaires entre les classes. Alors, il y a l'exploitation de la nature par l'homme, et l'exploitation de l'homme par l'homme, évidemment. L'exploitation de l'homme par l'homme qui se traduit par le conflit des intérêts de classe. Vous avez remarqué que le concept de lutte de classe a une histoire et que dans cette histoire, les acceptions qui l'ont définie ont changé. D'abord, il faut s'interroger, il faut bien préciser ce qu'on doit entendre par la lutte des deux classes, bourgeoisie et prolétariat ou classe ouvrière, dans le cadre du capitalisme. Très souvent, on a fait reproche au marxisme d'avoir réduit l'analyse sociale à cet antagonisme de deux classes, la bourgeoisie et le prolétariat. C'est naturellement trop simple, c'est trop facile, parce que n'importe lequel d'entre nous, dans la vie quotidienne, observe que les choses ne se passent pas ainsi. Le patron d'Airbus, par exemple, peut très bien ne pas être perçu comme étant le patron, c'est-à-dire l'exploiteur, le détenteur du pouvoir. Ça veut dire que dans la société bourgeoise, la société que Marx appelle la société bourgeoise, il y a ces deux classes dont on peut dire qu'elles sont polaires, parce qu'elles représentent l'expression la plus essentielle et la plus spécifiante pour le mode de production capitaliste. Mais naturellement, ces deux classes ne sont pas seules. Auprès de ces deux classes, il y a la classe dont on ne peut pas dire qu'elle soit le résidu du mode de production précédent, c'est-à-dire le féodalisme, mais qui garde quelques traits d'une certaine antériorité par rapport à la société marchande. C'est la paysannerie, c'est les petits propriétaires, dont on sait qu'ils sont très nombreux, et qui représentent ce que Marx appelle souvent la petite bourgeoisie. Il y a d'autre part des restes de la féodalité, c'est-à-dire l'ancienne classe dominante. Et ça signifie quoi, ça? Ça signifie que dans le combat qui est engagé entre les deux classes polaires, combat qui devrait voir en principe la victoire du prolétariat, puisque c'est le développement de la bourgeoisie elle-même qui développe le prolétariat et qui rend son action et sa combativité plus grande, il est nécessaire que dans cette lutte, il y ait des alliances de classe. Marx a dit à plusieurs reprises que la lutte du prolétariat réduit à lui-même serait un champ funèbre. Si le prolétariat est seul, c'est un champ funèbre. Il faut donc, et Marx le voit dès 48, ça, il faut donc qu'il y ait une alliance, des alliances. Alors ces alliances, il y en a eu deux. Importante. Il y a eu l'alliance préconisée par les fondateurs du marxisme entre le prolétariat et la petite bourgeoisie, en montrant que leurs intérêts étaient sensiblement les mêmes, malgré une certaine possession d'outils de travail ou d'instruments de production qui est celle de la petite bourgeoisie, et qui pouvait caractériser une révolution, disons, anticapitaliste au sens fort, c'est-à-dire une conjonction entre petite et moyenne bourgeoisie et la classe ouvrière. Par la suite, l'alliance qui a triomphé, parce que les conditions révolutionnaires ne se sont trouvées réunies que dans des pays dont on peut dire qu'ils étaient sous-développés, sinon en voie de développement. Entendons par là, par exemple, la Russie, mais toutes les révolutions du même type qui ont suivi, l'alliance importante, l'alliance dominante, c'était l'alliance de la classe ouvrière et de la paysannerie, qui a été théorisée par Lénine, par Mao Tse-Tung et par un certain nombre d'autres. Voilà, il faut bien avoir présent à l'esprit ce concept d'alliance. Maintenant, pour éclairer un peu ce que vous disiez en conclusion, il faut savoir que non seulement ce concept a évolué, mais qu'il a été le plus souvent nié, et nié non pas par les adversaires du prolétariat, mais nié à l'intérieur même du mouvement marxiste, par des gens qui considéraient que, sous leurs yeux, la société capitaliste avait évolué de telle sorte que la lutte révolutionnaire n'était plus indispensable. Et par conséquent, on développait une théorie que par la suite on a appelée le réformisme, l'évolutionnisme. C'était notamment le cas de la théorie de Bernstein à la fin du siècle dernier. On disait que les rapports capitalistes se développent de telle sorte qu'ils peuvent, apporter une certaine paix sociale. Cette thèse a fait l'objet de discussions tout à fait passionnées à l'intérieur du marxisme. Auprès de cette interprétation, il faut mentionner celle de l'économisme. L'économisme, c'est l'interprétation qui consiste à dire que le jeu des deux classes en lutte se résout à leur situation économique et que par conséquent, il suffit de laisser faire le développement du capitalisme pour que le prolétariat parvienne au pouvoir. Ce qui naturellement n'a aucun fondement, et dans la doctrine de Marx, certainement pas. Parce que le jeu des forces économiques, bien sûr, est déterminant, mais s'il n'y a pas, et ici il nous faut introduire un nouveau concept, s'il n'y a pas, de la part du prolétariat, la prise de conscience de sa situation, c'est-à-dire la conscience de classe, alors à ce moment-là, sur le plan révolutionnaire, il ne se produira rien. Ce point mériterait d'être développé. Je ne le fais pas parce qu'il est bien clair que du côté du prolétariat comme de la bourgeoisie, ce qu'on oublie souvent de dire, il y a une forte conscience de classe. C'est lorsque cette conscience de classe s'atténue parce que les organisations de la classe ouvrière sont devenues réformistes, comme c'est le cas des partis aujourd'hui et des syndicats en France, que non seulement l'idée de lutte de classe s'estompe, mais que le prolétariat lui-même, en tant que force révolutionnaire, est mis en question. À telle enseigne, et aujourd'hui on peut prendre un exemple tout à fait actuel, aujourd'hui le concept de classe, qui malgré tout chez les économistes et chez certains hommes politiques, fait sa réapparition. Parce qu'on voit bien qu'il y a des conflits d'intérêts qui ne peuvent être lus qu'en conflit de classe. On voit bien que cette éclipse fait surgir deux autres notions qui sont de véritables régressions par rapport au vocabulaire marxiste. La notion de peuple. La notion de peuple, aujourd'hui, sur les élections présidentielles, tout le monde évoque le peuple veut ceci, le peuple veut cela, je dirai ceci au peuple, je lui dirai cela. Seulement, le peuple, ça comprend les monsieur Forgeard, le patron d'Airbus, les actionnaires et les travailleurs. Ou alors, une notion tout à fait improbable, parce qu'on aurait le plus grand mal de la trouver dans quelque théorie politique que ce soit, et qui a été utilisée il y a déjà pas mal d'années par le Parti communiste, c'est la notion de gens. On s'adresse aux gens. Les gens sont un concept qui est non seulement introuvable, mais qui a encore moins de signification que le peuple, parce qu'au moins le peuple, on peut évoquer la souveraineté populaire, tandis que la souveraineté des gens, ça n'a pas de sens.